troisième chapitre de la première épître de Pierre. Et puis, juste en introduction, une petite vue d'ensemble. Les versets 1 à 6 nous parlent de la responsabilité, des responsabilités de la femme envers son mari. Et le verset 7, responsabilité du mari envers sa femme. Les versets 8 à 12, conduite à suivre dans nos relations. C'est juste hein, quand on voit un petit peu les différents passages qu'on a dans ce chapitre. Les versets 13 à 17, second rappel à être prêt à souffrir d'injustice suite au chapitre 2, 19 à 21. Et puis les versets 18 à 22, parallèle là aussi au sacrifice du Christ comme à la fin du chapitre 2 et aussi un rappel du baptême. Mais bon, on ne va pas voir ça ce soir, hein, donc on en reparlera. Donc, on commence par la responsabilité de l'épouse envers son mari. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 7. Et puis, on peut, ceux qui ont envie de lire deux versets, on commence. Après, voilà.
Vous aussi, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans le secours de la parole par la conduite de leur femme. Nous considérons combien votre conduite est pure et respectueuse.
Ah, c'est à moi. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure, et cachée du cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Je vais faire le dernier verset.
Philippe, je continue. Alors, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Voilà. Merci jusqu'ici pour l'instant. Cette première partie nous parle assez clairement des relations dans le cadre du couple. Et puis la première partie, les versets 1 à 2, on pourrait voir un petit peu un sous-chapitre qui nous parle avant tout des femmes qui auraient un mari non-croyant. Hein, et que ces épouses-là... En fait, c'est pas sur la parole que les maris vont être gagnés, mais sur l'exemple. C'est plus axé sur le comportement que par la parole. Hein. Il est dit, hein, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et en effet, hein, je pense que si une épouse a un mari non converti, parce que, voilà, suite à différentes circonstances, peut-être l'épouse a découvert le Seigneur, mais pas encore le mari, je pense que c'est sage, en effet, que la femme ne le bombarde pas à coups de versets et de prières de repentance ou je ne sais quoi. Parce que le pauvre mari, au bout d'un moment, il va juste être épuisé de cette situation. Et puis, par l'exemple, par contre, par le comportement, le mari pourra être gagné à Christ. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit jamais parler, puis jamais parler de son Seigneur. Mais plutôt axer les choses sur le comportement, sur la façon de vivre, que sur la parole. Et puis ça, on peut penser aussi, alors si je sors du sujet du couple, mais on peut penser ceci aussi un peu à titre d'exemple dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, je pense que c'est mieux d'axer sur le comportement que sur la parole. Parce que si vous prêchez à longueur de journée au travail, je pense que ça ne va pas forcément porter beaucoup de fruits. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus parler. Alors maintenant, on sait que dans certaines entreprises, c'est même devenu interdit. Alors là, c'est encore un autre souci. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine sagesse à avoir dans le milieu professionnel, comme dans le cadre du couple. Là, Pierre nous parle assez clairement de ceci. D'ailleurs, on retrouve un autre exemple. On va revenir, bien sûr, après sur l'épître de Pierre. Mais on trouve un passage parallèle chez l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2. Les versets 10 à 15. On peut déjà lire même verset 9. 9 à 15. Donc on continue au niveau des lecteurs là où on en était. 1 Timothée 2, 9 à 15.
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or. 1 Timothée 2, verset 9. Avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.
Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression.
Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté.
Voilà. Alors, bon, c'est des passages un peu difficiles, entre guillemets, peut-être pour vous, mesdames, parce que c'est assez crack-boom, entre guillemets. Mais c'est quand même la parole du Seigneur et je pense que c'est bien de s'y arrêter. Et on voit que ici aussi l'apôtre Paul, il met pas l'accent sur la parole dans le couple, mais il met l'accent sur le comportement de l'épouse. Et puis pas sur la parure extérieure, mais sur la parure intérieure. Il y a des priorités. Donc là, moi je dirais par rapport à la parure extérieure, ça veut pas dire que la femme doit pas se faire belle. Mais elle ne doit pas être un objet, si on peut dire un terme comme ça, de tentation. Dieu a quand même distingué l'homme et la femme. Aujourd'hui, on a des habits on ne va pas commencer à mélanger les genres. On est dans une société, malheureusement, qui commence à mélanger les genres. Et on voit très bien dans la Bible aussi que Paul, il mettait aussi quand même l'accent sur une certaine féminité quand il parle des cheveux longs et tout. Mais aujourd'hui, on est dans une confusion complète et cette confusion-là, elle vient pas, bien sûr, du Seigneur. Donc, l'accent n'est pas mis ici aussi sur la parole, mais sur le comportement. Et puis, on voit bien clairement que tout le passage que nous venons de lire aussi, il nous est parlé aussi, du couple, avec l'exemple du premier couple, Adam et Ève. Et il nous est parlé du couple aussi par rapport à la séduction, du premier péché. Et il nous est parlé du couple aussi par rapport à la femme qui est appelée à devenir mère. Donc on voit qu'on est dans un passage qui nous parle en premier du couple. Et le péché, est entrée, bon, bien sûr par le diable hein, en premier. Dieu savait déjà que l'homme allait pécher, que la femme allait pécher face à la séduction du diable. Dieu savait dès le départ que l'homme n'arriverait pas à résister au mal, hein, qu'il aurait besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Christ a été prédestiné avant la fondation de ce monde, parce que en mettant le diable en contact avec l'homme, Dieu savait dès le départ, il n'a pas été pris par surprise que l'homme vienne à pécher. Il savait déjà qu'en mettant ces conditions-là sur cette terre, que l'homme aurait besoin d'un sauveur. Mais le péché est quand même entré par la parole. La parole a été, bien sûr, d'abord celle du diable, et puis ensuite, elle a été retransmise par la femme. Et il y a quand même, comme une conséquence à ça. Et on voit que dans le couple, dans la pensée chrétienne, il y a quand même une hiérarchisation dans le couple. La femme n'est pas le chef du couple, mais c'est bien l'homme. Hein. Et il y a une soumission de la femme à l'homme. Et puis on verra après d'ailleurs en grec ce terme soumission, un peu la pensée biblique par rapport à la soumission, parce que ce n'est pas une soumission comme ça, un despote, hein, mais on verra quelle est la pensée, pensée en grec, qui d'ailleurs rejoint, on verra tout à fait, la Genèse. Hein. Il y a des fois des liens comme ça qui sont intéressants à voir dans le vocabulaire, dans les textes, dans les langues anciennes. Hein. Alors, l'axe n'est pas mis sur la parole. Et ici, une fois, moi, j'avais fait une étude sur le sujet, sur plusieurs passages parallèles qui nous parlent du couple. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, que ce soit au verset 9, quand il est parlé des femmes, que ce soit au verset 11, que la femme écoute avec l'instruction en silence avec une entière soumission, que ce soit au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ici, chaque fois quand on trouve le terme femme en grec, c'est gune. Et ce terme grec a un double sens parce qu'il peut dire femme, mais aussi épouse. Et on trouve un terme en grec qui parle que de femme, c'est-à-dire qui est lié à l'identité de la femme. Mais ici, ce n'est pas le cas, là, c'est guné. Et il y a un double sens, femme ou épouse. Alors, comment est-ce qu'on traduit? Ben, nous, on a appris les choses comme ça. Hein. Et les traducteurs, ils travaillent aussi dans ce sens-là. La traduction d'un mot, quand un mot a un double sens ou un triple, hein, c'est comme dans le vocabulaire français, les mots des fois ont plusieurs sens. Alors comment est-ce qu'on va traduire pour essayer de suivre le texte original? Alors, ben, tout simple, une règle de base, c'est de regarder le contexte. Et puis ici, on voit que le contexte nous parle du couple. Hein. Alors on pourrait aussi, dans ce passage-là, traduire « guné » en fait par « épouse ». Et si on traduit ainsi, hein, on voit que ça colle bien avec le sens. Il y a comme une certaine logique, hein, que l'épouse écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Soumission à qui? À son mari. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ou je ne permets pas à l'épouse d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, il y aurait ici un axe par rapport à l'épouse, que la femme, elle doit avoir une attitude paisible, une attitude de paix envers son mari, une soumission dans le cadre du couple. Et en fait, ce passage-là, avant de le prendre de manière comme ça un peu générale, ben, on pourrait venir un peu plus par rapport au couple. Et puis, il y a une ligne de conduite qui serait donnée par rapport au couple. Alors, ça ne veut pas dire que la femme n'a plus mot à dire et puis qu'elle doit accepter toutes les décisions de son mari comme venant de la pensée du Seigneur. Mais il y a une reconnaissance de l'autorité de la part de la femme envers son mari, et puis une recherche quand même d'une unité aussi, et de ne pas vouloir se défendre toujours au niveau du langage, dans peut-être chaque point conflictuel. Hein. Donc là, le verset 11, que l'épouse doit apprendre paisiblement, parce que c'est aussi le verbe apprendre ici, là on a souvent c'est marqué écoute l'instruction, mais c'est un verbe qui veut dire apprendre aussi, tout simplement, que l'épouse doit apprendre paisiblement, en silence, avec une entière soumission envers son mari. Elle doit apprendre quoi? Mais son statut d'épouse. Hein, doit apprendre la vie de couple. Et c'est quelque chose qui doit se faire dans une certaine ligne, dans un certain modèle. Et moi, je pense que voilà, la vision du Seigneur, c'est que le couple, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, mais c'est un apprentissage, et c'est un apprentissage où la personne, l'épouse, va reconnaître que auprès de l'époux, il y a une autorité et il y a une soumission à avoir en Jésus-Christ. Hein. Le silence, là, il est dit, hein, qu'elle écoute l'instruction, qu'elle apprenne en silence.
Se marque paisiblement.
Voilà, paisiblement, voilà, tout à fait. Voilà, hein. Et puis ça correspond aussi pleinement au grec, parce que j'ai regardé, hein, qu'elle soit dans une attitude paisible, une attitude de paix. Pas une attitude de confrontation. Donc, si on dit silence, si on traduit silence, ça veut dire que la femme a plus voix au chapitre, quoi. Tout ce que le mari dit, c'est super, et puis qu'elle se taise. Non, mais une attitude de paix. Et là aussi, c'est quelque chose qui est plus axé sur l'intérieur que sur la parole. C'est pour ça que, bon, silence, c'est pas faux, parce que ça correspond au grec. Mais paisible, ça peut-être, ça ouvre aussi un petit peu la vision du couple. Alors, si je traduis le verset 12 aussi, je ne permets pas, en prenant le mot épouse au lieu de femme, je ne permets pas à l'épouse de donner instruction ni de prendre autorité sur le mari, mais elle doit demeurer dans une attitude paisible. Et avoir déjà dans l'Antiquité, la vie de couple n'était pas tout simple. Hein? Et puis autant l'apôtre Paul que l'apôtre Pierre donnent quand même une certaine ligne par rapport au couple. Pourquoi? Parce que ça ne devait pas être tout simple déjà à l'époque. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tensions dans le couple. Et aujourd'hui, alors je pense qu'on atteint gentiment le paroxysme. Hein? Et il n'y a plus rien de défini, et on est dans un mélange complet. Alors, je vais finir juste par rapport sur ce passage, puis après on ouvrira un petit peu le débat. Revenons donc à 1 Pierre, vu qu'on voit quand même que ce passage ici de Paul est assez parallèle à ce qu'on vient de lire, donc 1 Pierre 3. Femme, donc là aussi de nouveau c'est guné, on pourrait traduire par épouse, soyez de même soumises à vos maris. Hein. Ici on pourrait poursuivre le grec, à vos maris, c'est vraiment à vos propres maris.
Hein, ouais, parce que si c'est marqué à votre mari,
voilà.
C'est mieux que à vos maris.
Voilà, non, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, ce que je ne sais pas, alors, je ne peux pas vous dire, là, je n'ai pas le grec sous les yeux, s'il est au pluriel dans le grec ou au singulier.
Mais ici, hein? Soyez soumis
à vos maris.
Au pluriel.
Hein? Et puis, vos, ici, si on veut traduire vraiment bien, c'est vos propres maris. Hein? Ou si c'est au singulier, ça, je n'ai pas regardé, je dois dire, à ton propre mari. Il hein? y a une soumission à avoir au conjoint. Et puis là, on pourrait vraiment traduire épouse, hein, comme les autres termes avant qu'on a vu Gunet, chaque fois on pouvait traduire épouse. Hein. Et la soumission, en fait, dans la pensée grecque, par rapport au Nouveau Testament, c'est aussi ici question d'une attitude, et une attitude volontaire, Hein, c'est quelque chose qui vient du cœur, que la volonté de l'épouse doit quand même être mise en action. Hein, ce n'est pas de la passivité. Une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Et ça nous fait penser à Genèse, hein, qu'il est dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein, mais, et que Dieu va créer la femme pour qu'il soit une aide à celui-ci ou un soutien, hein, selon les traductions. Et on voit bien que dans le couple, il y a une complémentarité et il y a un projet commun aussi. Dieu a un projet commun dans le couple. Aujourd'hui, on est peut-être beaucoup dans l'individualisme, mais il y a un projet commun dans le couple. Et l'épouse est là volontairement dans une attitude de vouloir coopérer, de vouloir soutenir son époux. Et je pense qu'on voit que ce n'est pas une soumission en fait à un despote, hein, comme je vous disais un peu au début, mais il y a une attitude de coopérer, il y a une alliance qui se fait entre l'homme et la femme. Et cette alliance-là, elle vient toucher tous les domaines de la vie, et même les domaines professionnels. Merci Seigneur, hein, pour les couples qui peuvent collaborer ensemble au niveau professionnel. Et puis on voit qu'on a des exemples aussi, Priscille et Aquilas, ils coopéraient ensemble dans le ministère. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un couple qui peut coopérer dans le ministère, mais merci Seigneur pour les couples qui peuvent coopérer dans le ministère. Pierre, on voit aussi, il prenait son épouse avec lui dans le ministère. Il y avait quelque chose qui se vivait en commun. Et je pense que sa femme devait être là aussi pour le soutenir dans ses différentes activités apostoliques. Dieu ne fait pas les choses comme ça par hasard. Et il y a une richesse dans le couple, c'est certain. Je pense que nous, en tant qu'évangéliques, on défend la famille, on défend le couple. Mais en faisant ça, on défend la pensée du Seigneur. Bien sûr que Dieu, de l'autre côté, il y a aussi le célibat, hein. Ça ne veut pas dire que si on est célibataire, et puis moi je suis le premier intéressé de la chose, qu'on est à côté du sujet. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est solo, comme on dit aujourd'hui, qu'on est à côté du sujet, pas du tout. Mais il y a un projet divin dans le couple, et il y a quelques pistes de réflexion qui nous sont données dans la Bible par rapport au couple. Et des fois, c'est important peut-être de venir ou d'y revenir, parce que ça peut vraiment aussi enrichir la vie de couple. Le verset 10, on est toujours dans 1 Pierre 3, verset 2. « En voyant votre manière de vivre chaste, hein, c'est-à-dire pure, est réservée. » Ici, réservé, c'est un mot en grec qu'on entend beaucoup actuellement, c'est phobos, hein? Homophobe, ça vient de là, hein? C'est la peur des homosexuels. Alors phobos, c'est pas seulement avoir la peur, la crainte, mais il y a aussi une idée, et spécifiquement ce terme phobos par rapport au mari, du respect, hein? Du respect envers le mari, hein? Donc, en voyant votre manière de vivre pure et respectueuse envers votre mari. Donc, les versets suivants, on voit que l'accent n'est pas mis sur l'extérieur, parce qu'on pourrait dire, bon, ben alors, je n'ai pas trop de droit à la parole, alors je m'habille super bien, et puis c'est comme ça que je vais réussir à séduire mon mari, puis le faire entrer dans ma vision à moi. Hein. Non, ce n'est pas sur l'extérieur, mais c'est la parure intérieure et cachée d'un cœur qui a une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Hein. Voilà, une attitude, ici aussi, c'est une attitude de cœur, une attitude intérieure, une attitude qui espère, verset 5, en Dieu. C'est une espérance qui est mise en Dieu. Si c'est une espérance qui est mise en Dieu, ça veut dire que peut-être des fois, le conjoint, ça ne va pas non plus top. Hein. Parce que si on n'a rien à espérer, ça veut dire que la vie de couple est parfaite. Donc, si j'extrapole un petit peu, hein, Sarah qui espérait en Dieu, hein, elle avait un espoir. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi, dans le couple, il y a des processus de guérison, il y a des processus de changement, il y a des processus de croissance, et il y a des douleurs aussi. Hein, la vie en couple, je pense que les personnes autour de cette table pourront en attester, c'est pas non plus tous les jours un joli petit chemin rempli d'amour. Mais il y a une espérance que voilà, on grandit ensemble, on va continuer à cheminer, et puis un jour on vivra dans la gloire du Seigneur. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Hein. Voilà, que le cœur ne doit pas se laisser troubler par la crainte, même si parfois les situations sont peut-être un peu difficiles. Et c'est vrai que le cœur humain, de manière générale, a des fois vite, est vite empli de crainte. Et là, le Seigneur aussi nous encourage à ne pas nous laisser troubler par la crainte, à rester dans une attitude d'espérance. Et puis, verset 7, puis après j'arrêterai, puis on va ouvrir un peu le débat. On a un seul verset pour le mari. Hein. On en a 6 pour la femme, mais verset 7, c'est le seul qu'on a ici dans ce passage pour le mari. Mais en fait, vous allez voir, c'est du condensé. Hein. Donc, il y a quand même 2-3 choses à dire par rapport au mari aussi. Parce qu'il y a 3 responsabilités du mari envers sa femme. Mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, l'homme doit avoir de la sagesse dans son rapport avec leur épouse. Et là, les épouses disent...
Amen.
Amen. Et les maris, alléluia. la sagesse, ça veut...
La sagesse, Philippe.
Voilà, oui, il y a aussi pour tout le monde, hein, tout le monde prend le sort. La sagesse, c'est pas simplement un beau discours. La sagesse dans la pensée du Seigneur, c'est pas ça. Hein. C'est pas que t'es fait, qu'un mari doit, avant de se marier, il fait des autres études en philosophie, puis comme ça, c'est bon, je suis couvert, je vais pouvoir savoir comment vivre ma vie de couple, parce que j'aurai un langage merveilleux et toujours à propos et rempli de bon sens. Non, la sagesse, c'est aussi une attitude morale envers la femme. Hein. Donc, c'est pas la sagesse, c'est pas simplement une question de langage, mais c'est aussi avoir une vie droite. Hein. La sagesse dans son comportement envers son épouse. Ça, c'est la première responsabilité. Comme avec un sexe plus faible. Donc, l'homme doit prendre soin de son épouse. Pas seulement sur un aspect financier, mais c'est aussi une attitude d'être bienveillant, prévenant, rempli d'amour. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a un fardeau aussi par rapport à l'épouse. Voilà. Que l'homme est appelé à entourer sa femme avec une attitude prévenante, bienveillante envers elle. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de vie. Ça, c'est une troisième responsabilité. Honorer, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inverse de manquer du respect. C'est-à-dire, on peut manquer du respect en ayant des paroles déplacées, en faisant des actes injustes, en ayant un comportement qui déshonore son épouse. Je ne sais pas si vous avez vu là. Bon, actuellement, là, on est un peu dans l'actualité avec toutes ces histoires de viol qui sortent actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les médias. Hein. Il y en a maintenant dans Hollywood. Maintenant, ça sort dans la politique. Ça sort aussi, il y a eu dernièrement là, un cas dans une télévision française. Le gars, il s'est fait gicler. Hein. Et puis là, il y a eu tout dernièrement, j'ai encore vu aujourd'hui, le père Bush, une affaire qui remonte à 4 ans en arrière, alors qu'il était une chaise roulante, il y avait une photo par rapport à une série américaine, et puis l'actrice était à côté du président, de l'ex-président, puis le président, pendant la photo, pouf, il a mis la main où il ne fallait pas. Et il a dû s'excuser. Hein. Mais voilà, ça sort que maintenant, 4 ans après. Ouais, alors c'est, hein, y a la photo officielle, puis la pauvre actrice, elle a essayé de garder bonne figure. Là. Bon, bref. Donc, le père Bush, en faisant ça, il déshonore son épouse. Ça, c'est sûr. Et l'article de presse mettait d'ailleurs que son épouse la regardait avec des gros yeux, quoi. Regardait son mari avec des gros yeux, du genre, mais de dire ça repart, quoi. Donc ça, c'est des comportements que le Seigneur nous aide, parce que ça va pas forcément comme ça changer avec le temps. Mais la sanctification, on est appelé à la sanctification, et que Dieu puisse aussi travailler nos cœurs dans ces domaines-là. Hein. Donc, honorer l'épouse, avoir du respect envers son épouse, et puis avoir des actes aussi qui l'honorent, que ce soit en parole, hein, la gratitude, pouvoir la remercier pour qui elle est, pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle entreprend. Le mari doit être là pour encourager. Hein. Alors, il y a des maris, franchement, des fois, ils n'ont peut-être pas un ministère d'exhortation. Hein. Mais on est humain. Dans nos rapports aussi, hein, des fois on n'est pas toujours encouragé. Là, quand la personne est en train de galérer, on arrive puis on fout les deux pieds dans le plat. Ça arrive. Hein. Mais c'est des lignes qui nous sont données. Et puis ces lignes-là, elles nous sont données. Je pense qu'on peut, on peut élargir par rapport à nos relations aussi en général. Que nous, on puisse avoir une bonne morale, qu'on puisse être un exemple dans notre comportement. Et puis un exemple d'amour, un exemple qui a souci de l'autre. Et je pense que ça peut nous encourager dans nos relations mutuelles, que ce soit dans l'église, mais aussi à l'extérieur. Que les gens puissent voir qu'il y a quelque chose qui nous anime, qui est quand même différent. Là, dans le cadre professionnel, j'ai une collègue de boulot qui m'a dit « Ah, mais ça me fait plaisir de te revoir toi, j'aime mieux te revoir toi que l'autre. » Bon, bah, tant mieux, hein. Mais pourquoi c'était pas que je bossais mieux que l'autre. C'était de l'attitude de cœur. Parce qu'elle m'a parlé de ça. Mais l'autre, il a la grosse tête, il sait tout, il a tout vu, il me comprend mieux que les autres. Et puis voilà. Donc elle a quand même remarqué dans les partages qu'on a eus que j'étais pas là avec une supériorité. Bon, voilà. Ça veut pas dire qu'on est toujours parfait, hein. Mais. Honorer l'autre, ça veut dire qu'on se prend pas pour le supérieur, mais qu'au contraire, qu'on voit qu'on est quelque part aussi dépendant de l'autre, et même, c'est la Bible qui dit, hein, qu'on voit l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Hein. Ça, c'est vrai que c'est pas la pensée du monde, quoi. Alors là, moi j'en ai fini pour ce passage-là. On peut ouvrir un moment le débat. Après, on verra si on va plus loin dans l'épître. Mais je trouvais quand même intéressant de revenir un petit peu sur le grec ici et de voir que ces passages clairement nous parlent du couple et que même le passage qu'on a lu aussi dans 1 Timothée, on peut aussi voir qu'il nous est parlé du couple. Et que ça donne des pistes de réflexion à comment le couple est appelé à vivre, hein, pour retrouver une harmonie. Et que vous sachiez qu'il y a, comme je vous disais, il y a un terme en grec où il nous est parlé de la femme en tant qu'identité du sexe féminin. Et que ce terme-là, ce n'est pas celui qui est présent dans les passages qu'on vient de lire. C'est un terme qu'on va retrouver, par exemple, dans la bouche de l'apôtre Paul, en Galates, quand il dit « il n'y a ni femme ni homme hein. ». Qu'en Christ, il y a un principe d'égalité, parce que oui, on a été créé à l'image de notre Dieu. Il y a un principe d'égalité dans le couple, entre l'homme et la femme, mais dans le couple, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a ce terme « épouse hein, », que dans, par rapport à l'identité d'épouse, Dieu voit un peu quand même des fonctions différentes. Il y a une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'homme et la femme en tant que telle, mais dans, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, hein, ni homme libre, ni homme esclave. Hein. C'est devant le Seigneur, on a tous la même valeur, mais dans le cadre du couple, il y a une hiérarchie, il y a quelque chose de, quand même de différent. Et le grec, clairement, dans le grec, dans le texte, permet de différencier tout ça aussi. Hein. Voilà.
Ce qu'on peut aussi lire dans la note ici, c'est que la femme, et donc moi j'ai dans ma traduction j'ai la nature délicate, plus délicate, une nature plus délicate, hein, de la femme. Alors bien sûr là c'est bien clair que c'est les limites physiques, aussi, c'est pas des limites intellectuelles ou d'infériorité quelconque, mais c'est vraiment, ou intellectuelle, mais c'est des limites physiques, donc nature plus délicate. Hein. Et puis bon, les femmes, si donc elles n'étaient pas protégées, bon, il faut voir aussi le contexte de l'époque, hein, c'est que l'homme exerçait, disons, le travail à l'extérieur quand même, à ce moment-là, beaucoup plus que maintenant. La femme, donc elle était aussi plus vulnérable par rapport à la société dans laquelle il vivait à cette époque-là. Mm-hmm. Et puis, elle avait besoin d'une protection de l'homme.
Oui.
Ah. On peut dire ça aussi comme ça. Donc,
C'était très codifié aussi. Hein, quand on voit Jésus qui s'adresse à une Samaritaine, c'était choquant, pas seulement parce qu'elle était Samaritaine, mais parce qu'elle était femme. Mm-hmm. Donc, en effet, oui. Mm-hmm. Ouais. Mais maintenant, on peut penser à des exemples de femmes qui étaient dans le commerce, dans le Nouveau Testament. Hein, quand Paul y rencontre cette femme aussi, là, qui est, voilà, Lydie, hein. Elle était dehors de sa maison et même dehors de sa région. Donc, ça commerçait aussi. Mais bon, moi, je ne suis pas suffisamment connaisseur du monde de l'Antiquité pour vous partager là-dessus. Parce que c'était peut-être différent en Judée que hors de la Judée. Hein. Mais bon, c'est sûr que ce n'était pas le monde du travail d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y avait une responsabilité. Quand on voit Joseph, il avait le souci de Marie. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Et puis, on ne voit pas une Marie travaillant. Mais bon, maintenant, voilà.
Il y a aussi le texte d'Éphésiens 5 sur les devoirs domestiques.
Oui, c'était
verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme voilà. Christ. C'est la comparaison entre l'Église. Christ est
le chef de l'Église.
De même que le mari est le chef de la femme, avec tout ce que cela comporte.
Cinq
verset 22.
Que de responsabilité. Oui. 5 verset.
Moi, je trouve ce texte d'Éphésiens 5 absolument extraordinaire, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole. La parole du Seigneur, bien sûr, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On remplace l'Église par la femme, enfin, ou l'épouse, afin de faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quel ministère pour l'épouse ?
Pour l'époux.
Et pour l'époux aussi. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps.
Il y a comme une responsabilité, entre guillemets. Oui, il y en a une, bien sûr. Mais aussi dans la... Comment dire ça ? En lien avec la sanctification, quelque part. Si le mari est défaillant dans la sanctification, comment est-ce qu'il va gagner son épouse à la sanctification ? Et puis ouais, tu voulais dire, parce qu'après,
oui, ça c'est quelque chose. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, le premier verset de Pierre 3 est extraordinaire, parce que la femme arrive à sanctifier le mari dans la mesure où elle est elle-même donc engagée, et que le mari, il est, je ne veux pas dire qu'il est nul, mais il n'a pas la foi. Il peut accéder à la foi grâce à son épouse, ce qui est merveilleux. Et il donne le moyen d'y arriver, quoi, sans pour autant l'assumer, comme tu disais, de paroles. Voilà, sans arrêt, c'est au contraire, on fait fuir. Hein, au lieu de. L'attitude peut amener le mari à dire oh, quelle épouse ai-je là ? Elle lui dit mais c'est pas de moi. Avec humilité, c'est le Seigneur qui m'a gagné à cette sanctification. Et...
Amen.
Et c'est le moyen d'une épouse d'évangéliser le mari. Qui est donné là. Un verset aussi est très exact.
Pour le, oui, bien sûr.
Mais.
Juste, parce que ça me fait réagir par rapport à la sanctification.
Ouais.
Ah, chacun sa Bible perso, là. En fait. Par rapport à ça, ce que tu me partageais là, à ce que tu nous partageais, ça me fait penser par rapport à la sanctification. Parce qu'il y a une responsabilité de l'homme dans le couple par rapport à la sanctification. Et puis on peut parler aussi, parce qu'on est entre adultes, par rapport à la sexualité. Si le mari est défaillant dans la sexualité, inévitablement il risque de déformer aussi son épouse dans certaines choses. En tout cas, il y a une idée que l'homme a la responsabilité de mettre les limites. Et en plus, l'homme est le plus fort. D'ailleurs, on voit bien qu'en cas de viol, c'est rarement des hommes qui sont fait violer par des femmes. Plutôt rarement. Bon, s'il y a d'autres expériences, je peux les partager à la table. Hein. Ouais, ça existe.
Oui, mais c'est pas
la majorité. Donc, il y a une responsabilité quand même de l'homme par rapport à la sexualité de garder une ligne dans la pureté. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre dans l'impureté sexuelle, dans la débauche. On a plusieurs passages qui nous parlent de ça aussi dans la Bible. Et il y a véritablement une responsabilité de l'homme. Et puis, il y a une responsabilité de l'homme aussi face aux fiançailles, d'amener sa femme pure à l'autel. C'est l'homme qui doit être le garant des limites. Mais c'est souvent l'homme qui défaille dans ce domaine. Hein? Mais dans la pensée du Seigneur, je pense qu'il y a quand même cette ligne-là. Comme Christ a la responsabilité de l'épouse par rapport à la sanctification, le futur conjoint a aussi la responsabilité devant Dieu d'amener sa future côte saine devant l'autel.
On ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas ouvrir sans sexualité, sexualité. Et maintenant, ça arrive même dans l'église. Je trouve ça un peu fort, non ? J'ai marqué aussi certaines choses, comme bouche, Il ne faut même pas parler dans l'Église des choses, il ne faut même pas prendre ces choses dans la bouche.
Oui, bon, moi je l'ai pas donné à titre d'exemple, hein, mais c'est le triste constat de notre société. Et puis la sexualité, mais je suis désolé, la Bible en parle. Et il faut pouvoir aborder ces choses-là, parce que vous êtes témoin aussi par rapport à la jeunesse. Vous pouvez leur donner des lignes. S'ils viennent vous poser des questions, vous pouvez leur enseigner sur ces sujets-là. Et moi, je me rappelle d'une dame pasteur, ce que je vous ai parlé par rapport aux limites de la responsabilité de l'homme par rapport à la sexualité, c'est une dame pasteur qui m'en a parlé. Et puis, moi, ça m'a été utile. Parce que tout d'un coup, j'avais jamais entendu un enseignement là-dessus. Mm-hmm. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur. C'est parce que je lui posais la question, c'est où sont les limites si on est dans une démarche. Parce que moi, je ne me suis jamais marié. Mais si on est dans une démarche de commencer avec une relation avec quelqu'un, voilà, ben les jeunes, ils vont poser aussi ce genre de questions. Quoi.
Les réponses sont quand même dans la Bible. Je pense, enfin, je ne sais pas dans quel texte on va retrouver, où c'est Paul qui parle de la volonté, où il parle de l'eunuque comme étant l'homme qui reste pur sans se marier. La façon dont il le dit, comprennent qui peut, bien sûr, mais il parle de la pureté à ce niveau-là, je dirais, par rapport notamment à la sexualité, ceux qui sont, je ne sais plus dans quel texte, on dit que certains ne se marient pas.
Oui.
C'est les textes par rapport.
C'est dans les évangiles, ouais.
Ouais, par rapport au divorce, je crois même.
Oui, c'est dans ça, les évangiles.
C'est par rapport au divorce, où c'est, je considère que c'est évidemment une abomination, mais que d'un autre côté, l'homme qui se retrouve seul n'a pas à prendre forcément une femme, parce qu'il peut rester eunuque. Parce qu'il y a des uniques qui sont de par naissance, d'autres que malheureusement les aléas de la vie l'ont amené à ça. Mmh. Et troisièmement, il y a ceux qui le sont par la volonté du Seigneur. Mais ça demande une sanctification toute particulière, cet état de. Ce statut de. Je dirais. Je ne veux pas utiliser le mot eunuque comme quelque chose de péjoratif, bien au contraire, mais quelque chose au contraire. Qui répond à une sanctification, en fait, de l'homme. Ce qui aurait donc pour le... Notamment pour les veufs, etc., ceux qui sont... qui se retrouvent veufs, etc. Et, bon. Il est bien que la veuve reste seule ou que l'homme reste seul. C'est dans ce texte-là. Je ne sais plus,
c'est
dans...
Oui, ça c'est aussi l'apôtre Paul, hein.
Oui. Ça se retrouve aussi bien dans les évangiles qu'avec dans une des épîtres de Paul. J'ai plus les références, mais
non. Ah, on voit de quoi tu parles.
Oui, et puis c'est marqué que si tu es veuf ou veuve, plus jeune, de 60 ans, c'est bien de rester veuf, mais si tu ne peux pas tenir, tu vas papillonner. C'est aussi dans le même texte.
C'est
mieux que tu seras marié. Combien?
Encourageant,
super.
Je pense.
Oui, en effet.
Oui, c'est ça. Bon, on peut peut-être le lire, alors.
Corinthiens
7.
Oui,
c'est la soumission des Corinthiens sur le mariage.
Parce qu'on est bon. Parce qu'on est déjà moins 4. Mais qu'est-ce qu'on peut lire Oui, parce que ça,
c'est long.
C'est tout sur le mariage, là.
Oui.
Il y aura la prochaine fois.
Non, ça, c'est trop. C'est trop, là. Mais il y a beaucoup à dire. En effet, ça, c'est des textes qui sont riches, quoi.
Oui.
C'est quoi, pas, à propos de la place de la sexualité par rapport à l'homme, la femme, le couple.
Propose que, peut-être personnellement qu'on puisse relire. Moi, de toute façon, je ne vais pas, la suite après, par rapport à Pierre, je ne vais pas revenir sur le couple. Ça, c'est des choses qu'on peut, peut-être revenir sur un sujet comme celui, celui-ci, mais voilà, une autre fois. Après, moi, je vais continuer l'épître de Pierre. Mais c'est vrai qu'on a, beaucoup de passages bibliques qui sont très enrichissants, hein, sur le domaine du couple. Et puis là, je vois juste le verset 29, hein, et l'apôtre Paul qui dit « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Hein? » Donc voilà, tout ce qu'on peut vivre, c'est par la grâce du Seigneur, mais on doit garder en priorité les yeux sur le royaume. C'est notre priorité numéro une, qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas, ça ne change pas. Notre priorité, elle est dans le Seigneur. Qu'on soit dans la vie active ou pas, notre priorité, elle est dans le Seigneur, dans ce royaume qui vient. Hein. Le temps est court. Pourquoi? Parce qu'une vie d'homme est courte. Mais peut-être pour nous, le temps est encore plus court. Voilà, moi, c'est mon, on ne peut bien sûr pas donner de date, hein, on l'a déjà dit. On sait qu'on trouve, on part dans l'hérésie. Mais le temps est court. Et à ceux qui sont les aînés de cette table, je pense que vous pourriez tous témoigner que le temps est court. Une vie humaine, elle est courte. Moi, j'ai de plus en plus cette perception. Donc, je me dis, quand j'irai, pour certains, je ne suis qu'à la moitié de ce que certains ont déjà vécu, qu'est-ce que je vais me dire? Mais j'ai l'impression que le temps avance tellement vite. Hein. Il y a un jeune retraité là qui a un sourire. Futur, le temps est court.
Je peux encore dire des choses.
Oui, mais oui.
J'avais ma fille avec une autre femme. Bon, ma fille, elle a 48. Avec une autre femme de son âge du village qui s'occupait de l'école du dimanche. Deux chrétiennes qui nous faisaient plaisir, etc. Et puis, elle s'est mariée, sa copine. Mais toi, tu veux savoir de qui je parle.
Oui,
mais il était tellement sur la Bible, deux chrétiens, j'ai dit, oh, ça va être super. Ils sont séparés. Ben, il ne faut pas des cheveux longs, ou bien il ne faut pas une tresse comme ils mettaient. Ouais, il faut t'habiller. Tellement. Elle a tellement rigide qu'elle n'a pas tenu.
Légaliste.
Mais moi, j'ai dit, non, mais c'est pas vrai, c'est deux qui se divorcent. Et mon Dieu, moi, il faut faire attention. Voilà, j'ai dit. Oui, je ne pensais pas à ça, ça fait mal.
Alors voilà, on a terminé pour ce soir.